Europe 1 Soir Weekend, Arthur Delaborde.
Ça fait débat jusqu'à 19h sur Europe 1 avec mes invités ce soir, le maître de conférence en droit public, Benjamin Morel, bonsoir.
Bonjour.
Et le juriste Thomas Scarpellini, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va peut-être commencer par parler d'Emmanuel Macron qui est attendu de pied ferme hein, par les manifestants au Stade de France ce soir pour la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. La CGT notamment distribue des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs pour manifester leur mécontentement à des moments clés du match. Est-ce que c'est une bonne idée pour le président de la République d'assister à cette rencontre dans le contexte actuel, Benjamin Morel?
En fait, il n'a guère le choix. C'est-à-dire qu'il faut voir que le président de la République a une forme de double rôle. Il y a évidemment le rôle de chef officieux de la majorité, et donc il mène une politique avec un programme, mais il est également l'incarnation de l'unité de la nation. C'est un peu sa casquette reine d'Angleterre, président de la République fédérale d'Allemagne, etc. Cette incarnation de l'unité de la nation par le chef de l'État, elle est importante et elle implique eh bien, d'être présent dans des événements consensuels, etc. Pour l'instant, Emmanuel Macron est empêché sur sa première casquette, celui de chef officieux de la majorité. On voit qu'il n'y a pas vraiment de programme, pas vraiment d'agenda politique qui peut être mené au Parlement. Là, s'il montre qu'il est empêché également avec cette seconde casquette d'incarnation de l'unité de la nation, c'est très problématique. Or, c'est ce que visent à faire aujourd'hui en partie les opposants et les syndicats. Ne pas être présent, se barricader à l'Élysée, sembler eh bien, renoncer à incarner, ça devient ensuite un vrai problème de gouvernabilité pour Emmanuel Macron. Donc il ne peut pas ne pas y aller. Mais en même temps, les images risquent d'être assez délétères.
Thomas Scarpellini, vous êtes d'accord avec Benjamin Morel ?
Entièrement d'accord. Moi, je rajouterais en plus la petite remarque qu'avec Emmanuel Macron, on ne doit pas avoir la même définition du mot apaisement. À la fin de son allocution de la semaine dernière, il nous annonçait 100 jours de calme, de sérénité et devoir mettre des barres en fer pour empêcher les supporters d'aller sur le stade. Je n'appelle pas ça l'apaisement. Le deuxième élément, à mon avis, qui semble être un peu intéressant à remarquer, c'est que peut-être ce soir, un autre mythe, une autre fantasmagorie va tomber. Celle disant qu'Emmanuel Macron est certes fracturé d'une partie de la population composée de syndiqués, de partis politiques, de militants, mais pas du pays réel, pas des Français en règle générale. Or là, cette finale de foot, c'est le pays réel, c'est la France en règle générale. Il n'y a pas d'événement plus populaire que le football, il n'y a pas d'événement plus fédérateur que le football. Et dès lors, si Emmanuel Macron, même dans ces moments de fête collective, en vient à être hué, à être insulté, à être bousculé, cela sera un signal extrêmement négatif, envoyé à l'ensemble du pays. Comme l'a très bien déclaré Benjamin Morel, ça montrera que Emmanuel Macron, guide de la nation, président de la République, garant de l'unité nationale, est bousculé dans ses fondements.
Alors la justice a finalement autorisé les rassemblements aux abords du Stade de France et les distributions de cartons rouges et de sifflets aux supporters par les syndicats. C'est une décision qui vous semble logique? On rappelle que la préfecture de police avait interdit ces rassemblements et ces distributions.
Vous savez, c'est l'éternelle question quand le magistrat est saisi entre le respect du droit de manifestation et le non-trouble à l'ordre public. Le tribunal a tranché, cette décision est fondée en droit. Tant mieux, c'est aussi ça la démocratie, le respect de la manifestation. Après, on peut se poser la question sur la question symbolique. Est-ce que mettre des sifflets et des cartons rouges, c'est bien ou pas bien? Ça, c'est à la CGT de répondre, c'est aux téléspectateurs de répondre et à tout à chacun de se faire un avis. Ce qui est certain, c'est que cet événement va devenir politique, indéniablement. Il va devenir militant, il va devenir, et plus important encore, symbolique. Toute cette fantasmagorie va prendre du relief dans le climat actuel et va être commentée, réutilisée par les partisans d'Emmanuel Macron si ça se passe bien, mais vous pouvez être également certain que si ça se passe mal, toutes les oppositions de droite, de gauche comme syndicales vont se jeter dessus comme les misères sur le bac clergé breton.
Benjamin Morel, le président finalement n'ira pas saluer a priori les joueurs sur la pelouse, il devrait faire ça mais en coulisses. Le but c'est d'éviter des images qui pourraient potentiellement être catastrophiques.
Hein. Oui, alors évidemment Laurent Nunez a dit c'est moi parce qu'en réalité il y a des risques pour la sécurité, mais on voit très bien que du point de vue de la communication politique, toutes les images qui pourraient être les images délétères d'un président qui serait chahuté, même de très loin, veulent être évitées par l'Élysée, parce qu'en effet, ça rentre en opposition avec la volonté d'apaisement, etc., telle qu'elle est présentée. Après, attention, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous évoquiez les manifestations aux alentours, attention à ne pas criminaliser ces derniers temps toutes les manifestations d'opposition. Évidemment, la violence, c'est condamnable. Il faut la condamner. Et d'ailleurs, c'est puni par la loi. Le fait de mener des actions illégales, typiquement couper l'électricité dans certains lieux, notamment des cliniques, c'est également condamné par la loi. Mais jouer de la casserole, c'est pas condamné par la loi. On peut juger ça bruyant, etc. Mais c'est une manifestation d'opposition qui a sa légitimité, de même que brandir un carton rouge. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que toute manifestation d'opposition tend à être considérée comme étant un trouble à l'ordre public. Ça, c'est dangereux pour les libertés publiques. Il y a besoin aujourd'hui d'une expression d'opposition. Elle est légitime. On peut contester ensuite le fond et la forme, mais elle demeure légitime. Et il faut également bien poser la différence entre ce qui relève des infractions à la loi. Or, aujourd'hui, il y a confusion.
Thomas Scarpellini, je suppose que vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes juriste.
Je suis entièrement d'accord et je dirais même qu'on peut agrandir le scope de lecture. Vous savez, pendant la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron et la Macronie s'est présenté comme rempart face au chaos. Si vous n'élisez pas Emmanuel Macron, vous aurez soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon et le pays sera totalement ingouvernable. Et c'est une petite voix mezza voce qu'on a entendue récemment au moment de l'élection de Meloni en Italie, en disant si Meloni arrive au pouvoir, et d'ailleurs la ministre des Affaires étrangères avait fait une déclaration dans ce sens, pareil à la Commission européenne, il y a quelques jours ou ce matin, un très grand journal italien faisait finalement le parallèle entre Meloni qui a réussi à apaiser l'Italie, qui était un pays fracturé, notamment entre le nord et le sud, pour les questions migratoires et économiques, mais où actuellement, politiquement, le pays est gouvernable comme stable, versus la France, où Emmanuel Macron s'était érigé, comme je l'ai dit, en rempart face au chaos, face à une situation où, comme on l'a tous rappelé, il est obligé de se barricader dans la loge présidentielle et de ne pas descendre dans la pelouse. Quelle image renvoyée au monde ?
Il faut dire que Emmanuel Macron, tous ses derniers déplacements qu'il a entamés dans ces fameux 100 jours qu'il nous a annoncés pour tourner la page de la réforme des retraites, tous ces déplacements sont accompagnés de ces casserolades, de ces huées, de ces manifestants, de ces comités d'accueil. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte, le président va pouvoir continuer ce Tour de France comme il nous l'a promis ?
C'est compliqué. Alors, il y a quand même aujourd'hui nombre de, d'outils qui sont mobilisés par le président, notamment le fait de ne plus révéler son agenda, ce qui permet d'éviter quelques casseroles. Néanmoins, il faut voir le symbole de la casserole. Emmanuel Macron a une méthode de communication qui est assez efficace depuis son premier quinquennat. Il prend un Français lambda dans la rue et il discute avec lui. Ce Français souvent a des récriminations, mais Emmanuel Macron a un art de la dialectique, de la rhétorique. Et donc souvent, il arrive, si ce n'est à convaincre, au moins à faire douter le Français à qui il s'adresse. Et dans le doute qu'il instille auprès de son interlocuteur, comme évidemment le tout est médiatisé, il y a un dialogue avec tout à chacun, avec le public et avec l'ensemble des Français, ce qui permet d'instiller le doute et de peu à peu retourner une partie de l'opinion. C'était plus ou moins efficace, ça a été efficace notamment lors du grand débat. Ça n'a pas été efficace avant, lors de l'itinérance mémorielle, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence-là, qui a précédé la crise des Gilets jaunes. Néanmoins, la casserole est un refus de communiquer de la part d'une partie des Français vis-à-vis de cette communication-là. On ne veut pas parler avec vous, monsieur le Président, on joue de la casserole justement pour ne pas vous entendre et ne pas rentrer en dialogue. Et ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué à surmonter pour le Président de la République parce qu'aujourd'hui, il a un besoin, changer de séquence, laisser les retraites derrière lui, passer à un autre débat. Et si personne ne veut dialoguer avec lui sur ce qui pourrait être demain une réforme, qui par ailleurs, il n'a pas vraiment les moyens de mener d'un point de vue parlementaire, mais c'est un autre sujet, ça rend la crise plus ou moins systémique.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on entend beaucoup des accusations de mépris de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il dit par exemple que les casseroles ne feront pas avancer le pays ou qu'il compare les manifestants au décor et qu'il dit qu'il ne peut pas s'arrêter pour regarder le décor sinon le pays n'avance pas.
Ce qui est certain, c'est que ces 100 jours d'apaisement, c'est la fusée SpaceX. Ça part bien, mais au bout de 5 minutes, ça explose. Ça ne marche pas. Et en plus, Emmanuel Macron, on le connaît pour ses petites phrases, mais là, on vient également de rendre compte que si certes, il joue en attaque, pour reprendre la phrase de Carl Olive, son équipe de foot est également un petit peu bancale. Marlène Schiappa, qui est un poids lourd du gouvernement, dans Playboy, le symbole est mauvais. Gérald Darmanin lance une grande opération à Mayotte, ça semble pas encore tiré d'affaire. Pape Ndiaye, également. Emmanuel Macron ne peut même pas compter sur des relais, sur des poids lourds politiques pour un petit peu venir l'aider et en servir comme des relais, que ce soit dans les médias ou dans les déplacements. La seule qui a fait un petit peu illusion dernièrement, c'était lors de la nuit des Molières, la ministre de la Culture. 24 heures après, on apprend que la séquence était bidonnée, qu'elle est le texte de la CGT en avance et que finalement, tout ça, c'était la grande scène du 2 et qu'elle s'est fait prendre sur le marchepied du fiacre. Donc en plus, Emmanuel Macron est donc seul dans cette bataille. Et quand on est seul, il en devient un paratonnerre. La question qu'on pourrait se poser légitimement, c'est où est Elisabeth Borne ? Où est le paratonnerre prévu dans la Constitution ? Celle qui doit mener l'action gouvernementale et qui permet d'être remplacée, pour ne pas dire virée, quand le pays et la contestation en devient trop forte.
Justement, Elisabeth Borne qui a présenté tout de même cette semaine sa feuille de route pour les mois à venir. Feuille de route qui a été assez critiquée dans la presse.
Critiqué dans la presse, mais moi je me suis même intéressé à un symbole. Elle l'a fait d'où, sa conférence de presse ?
Depuis l'Élysée.
Depuis l'Élysée. C'est une première. normalement, ces grandes annonces sont faites soit à la tribune de l'Assemblée nationale, soit dans la salle de conférence de presse de Matignon. Or là, à l'Élysée. Donc qui parle ? Est-ce que c'est Elisabeth Borne, celle qui constitutionnellement doit mener l'action gouvernementale, ou est-ce Emmanuel Macron qui, encore une fois, se mêle de tout, ne fait aucune distinction entre le Premier ministre et la présidence de la République, et finalement téléguide une très bonne technocrate, car à mon avis, Elisabeth Borne est une très bonne techno, mais une piètre Première ministre dans sa capacité est un poids lourd politique.
Benjamin Morel, cet agenda dévoilé par la Première ministre, on retient finalement assez peu de choses, si ce n'est le report de la loi immigration à l'automne.
Bah on retient assez peu de choses parce qu'il y a assez peu de choses. Ce qui montre en réalité un gouvernement en grande partie empêché. Je crois que le grand fait politique de l'époque, le grand fait politique depuis les dernières législatives et particulièrement depuis le dernier 49 alinéa 3, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de majorité, c'est qu'il y a non seulement une majorité qui est relative, ce n'est pas la première fois sous la 5e, c'était le cas avant 62, c'était le cas de 88 à 93, mais à l'époque, il y avait quand même des groupes politiques qui, un, tenaient la route. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'intergroupe. Hein. Ensemble, c'est-à-dire l'union de Renaissance, Horizon, le Modem, ça n'existe que sur le papier. On voit que les groupes se tirent dans les pattes et qu'eux-mêmes sont très déstructurés, notamment le groupe Renaissance, qui n'a pas vraiment soutenu sa présidente, par exemple, quand elle a proposé une proposition de loi il y a à peu près un mois. Et que les alliés potentiels, notamment LR, sont des alliés très évanescents. Quelle est la stratégie du gouvernement dans la réforme des retraites ? C'est de toper avec LR sur les 64 ans au mois de janvier pour dire « ça va être compliqué dans la rue, mais au moins on aura une majorité parlementaire ». Comment ça finit ? Avec un 49-3, une motion de censure qui passe à 9 voix près, dont beaucoup de LR qui vont voter la motion de censure. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alliés, il n'y a pas non plus une cohésion au sein de la majorité. Donc il y a un pays qui est très très difficile à gouverner. Et que dit Elisabeth Borne, ou qu'est-ce qu'elle ne dit pas lorsqu'elle présente cette feuille de route ? Eh bien c'est « je n'ai pas de majorité ». Donc le seul texte un peu emblématique, mais qui n'a pas de majorité, je le repousse, la loi immigration. De l'autre côté, je demande aux syndicats et aux patronats de se mettre d'accord sur le sujet du travail, parce que s'ils se mettent d'accord, je n'ai pas besoin de faire de texte et je ne peux pas faire de texte. Et sur d'autres sujets, je fais des rallonges budgétaires, etc. Je gouverne par voie de décret, parce qu'en réalité, je n'ai pas de majorité. Ça, c'est très très nouveau. On n'a aucun Premier ministre jusqu'à présent qui a avoué cet empêchement. Et ça, évidemment, ça limite de beaucoup la capacité d'action du gouvernement et du président.
Et pour autant, Emmanuel Macron a tout de même demandé à Elisabeth Borne d'élargir cette majorité qui n'existe pas.
Mais exactement. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu une forme de confusion. Enfin, il y a de la part d'Emmanuel Macron une volonté à la fois de donner une tâche impossible et de donner le sentiment qu'il peut encore. Mais un symbole de cette absence de majorité. Vous savez, en 2008, on a créé plusieurs choses dans la Constitution. On a fait une grande réforme de la Constitution. Nicolas Sarkozy a toiletté la chose et a modifié la moitié des articles. Et on a créé une méthode de contrôle des nominations du président de la République. On a créé une usine à gaz qui avait pour but de ne jamais être utilisée, que jamais aucune nomination du président de la République ne soit repoussée par les parlementaires. C'est arrivé. Il y a 3 semaines, le président de l'ADEME, qui d'ailleurs avait été nommé auparavant et ça n'avait pas posé de problème, a vu sa nomination retoquée par les députés et les sénateurs. Et là, vous avez en effet un symbole fort que la déstructuration de la majorité fait que même des choses qui ont été faites pour ne jamais être utilisées finissent par servir, ce qui montre bien l'impotence du pouvoir.
Thomas Scarpellini, c'est mission impossible pour Elisabeth Borne d'élargir cette majorité, vous le pensez aussi ?
Évidemment, politiquement, personne n'y a intérêt. Elle est fidèle dans son rôle. La République, le Rassemblement National également, LR, comme l'a très bien rappelé Benjamin, est réduit à peau de chagrin et finalement n'est plus que l'écume. Et on pourrait même signifier la fracture qu'il y a entre les LR, les rares députés LR qui ont été élus en opposition à Emmanuel Macron. Parce que là, faut pas, quand on regarde les sondages électoraux, les cartes de vote, l'électeur LR est déjà parti chez Emmanuel Macron. Donc les rares qui y sont restés ont vraiment voulu envoyer des députés contre la majorité présidentielle. Donc ils sont cadenassés de ce côté-là. Et la deuxième, on paye également le nouveau monde d'Emmanuel Macron. Le fait de mettre des députés ex nihilo, de mettre des ministres de la société civile, c'est très bien, mais sans aucun poids politique, sans aucun ancrage local. Si là on ferme les yeux et qu'on imagine des villes à droite, on peut en citer quelques-unes. Des villes historiquement de gauche, des régions historiquement de gauche, on peut en citer quelques-unes. Mais Emmanuel Macron a qui comme taulier, passez-moi l'expression, comme responsable, comme poids lourd dans les petites villes, ou dans les moyennes villes, ou dans les préfectures, ou dans des régions? Personne. Emmanuel Macron prend à son compte la chanson de Goldman, il marche seul. Seul face au vent, seul face à l'absence de majorité, et il va le payer cash.
Et dans ce contexte, il reste quand même 4 ans au président de la République à l'Élysée. Comment vous voyez la suite, Benjamin Morel ? Question difficile.
C'est très difficile parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de solution institutionnelle à ce stade-là. On voit mal un accord de coalition avec des partenaires très déstructurés. Donc le remaniement, l'élargissement, la coalition apparaît compliqué à envisager. La dissolution produirait probablement, si on en croit les enquêtes et les élections partielles, une situation encore bien pire, avec peut-être, dans le pire des scénarios, une majorité absolue NUP-RN. Les deux ne pouvant évidemment pas gouverner ensemble, ça veut dire que le pays est structurellement ingouvernable et que toute motion de censure peut passer. Donc là, on se retrouve dans une situation très très compliquée. Donc la dissolution n'est pas vraiment une voie. Qu'est-ce qui reste ? Ben, il reste soit l'événement miracle, peut-être un effet drapeau, on verra bien. Après tout, le dernier quinquennat nous a habitués à des choses étranges qui pouvaient nous tomber sur la tête et qui créent une reconfiguration politique. Ou bien, eh bien une forme de gouvernement administratif, de canard boiteux, c'est-à-dire que ce que l'on est en train de vivre là, une première ministre qui dit « bah j'ai pas vraiment de programme législatif, mais c'est pas grave, je continue à administrer le pays », ça peut durer pendant 4 ans, c'est pas impossible. Est-ce qu'après tout, on fait trop de lois ? Est-ce qu'après tout, ce serait une mauvaise chose ? Peut-être sur certains aspects, moins sur d'autres. Mais en effet, la volonté et l'ambition politique de gouverner en sortiraient fortement atteinte.
Alors, on a eu une décision de l'agence de notation Fitch ces dernières heures qui a choisi d'abaisser d'un cran la note de la France, assainir les finances publiques. C'était pourtant l'un des objectifs de la réforme des retraites. C'est toujours d'ailleurs un des objectifs de cette réforme. On voit que finalement, il y avait l'ambition pour l'exécutif d'envoyer un signal ou des signaux au marché. Et finalement, ça s'avère totalement contre-productif, Thomas Scarpellini.
C'est le pire scénario pour Emmanuel Macron. Il l'a jamais dit publiquement, mais c'était des offres qui étaient sorties. Pourquoi cette réforme des retraites ? Il faut rassurer les marchés financiers. Pourquoi faut-il les rassurer ? Car notre État marche structurellement sur l'endettement. L'endettement permet de payer nos hôpitaux, nos écoles, que sais-je encore. Or, cet endettement n'est possible qu'en fonction de notre notation. Les agences de notation, pour ceux qui nous écoutent, ce sont celles et ceux qui disent « on peut lui faire confiance, donc il va pouvoir emprunter à un taux bas, ou on peut ne pas lui faire confiance, et il devra emprunter plus haut ». Or là, sachant qu'en plus Fitch, qui est l'une des trois plus grosses agences de notation, est celle qui est considérée dans le milieu financier comme la plus conciliante, la plus sympathique, celle qui ira le moins au front et celle qui prendra le moins de risques, fait passer notre note à AA-. On pourrait penser que ça reste des A et que c'est bien. On est au même niveau que la Tchéquie ou que l'Estonie, loin derrière les États-Unis ou l'Allemagne. Première chose. La deuxième, il va falloir également attendre aux deux autres agences de notation, notamment Standard & Poor's, qui eux sont beaucoup moins conciliants avec les États que peut l'être Fitch. Et dès lors, Emmanuel Macron, depuis hier soir, vient de perdre sur tous les tableaux. Il a perdu à l'Assemblée nationale, il a perdu dans la rue, il a perdu dans l'opinion publique, et vient de perdre sur les marchés financiers. Et cette affaire, à mon avis, peut marquer un tournant politique d'une grave crise. Car si demain, la France voit ses taux d'intérêt augmenter, on va devoir le payer. Mais avec quel argent ?
Est-ce qu'on peut s'orienter potentiellement vers une crise de la dette souveraine comme la Grèce a pu traverser, Benjamin Morel ?
Alors ça m'apparaît compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand même, vous avez aujourd'hui une régulation financière qui pousse les banques à parier sur les obligations d'État. Elles sont même quasiment obligées et on est quand même une obligation de réserve. Par ailleurs, la BCE a changé sa doctrine. Donc aujourd'hui, une crise type grec a peu de chances de se produire. En revanche, des taux qui augmentent et donc de l'argent plus cher, ça c'est beaucoup plus probable. Or il faut bien voir que la justification de la réforme par Emmanuel Macron, elle est double. Il y a une justification in et une justification off. Le in, c'est de dire, attention, cette réforme-là, elle va permettre d'investir dans les services publics. Seulement pour investir dans les services publics, il faut emprunter. Si jamais vous avez des taux qui augmentent, eh ben investir dans les services publics devient plus compliqué. Or, en effet, ils en ont besoin. L'hôpital, l'école, la police, etc. Évidemment, vous connaissez tout ça. De l'autre côté, la justification off, je reviens sur ce qui a été dit, c'était ben, on va rassurer les marchés financiers, en lien avec également le financement. Et là, s'il devait y avoir un exemple de l'expression « victoire à la Pyrrhus » à part le sort du pauvre Pyrrhus, ce serait probablement cette réforme. C'est-à-dire que vous avez un Emmanuel Macron qui dit « je fais cette réforme justement pour les marchés financiers ». Il se retrouve à la fin de cette réforme avec une cote de popularité irrattrapable dans l'opinion, une majorité, on en a parlé, qui a cessé d'exister, et donc une incapacité à gouverner pour le reste de son mandat, tout ça pour voir la note de la France rétrogradée. Et donc là, évidemment, certes, d'un point de vue parlementaire, la réforme est passée, mais les conséquences sont non seulement désastreuses, mais elles sont même contraires aux intentions.
Thomas Scarpellini, c'est vrai que quand on fait le bilan de cette réforme, comme vient de le faire Benjamin Morel, c'est assez terrible pour le chef de l'État.
C'est terrible et surtout c'était pour lui évidemment, mais c'était pour le pays, car moi je serais beaucoup moins rassurant que Benjamin Morel sur la comparaison entre la France et la Grèce. Souvenez-vous, il y a quelques années, un rapport avait démontré que si les marchés financiers se retournaient contre la France, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'acheter mais qu'ils vendent, l'État pouvait payer ses fonctionnaires qu'en 5 jours. Après, c'est le shutdown. Il n'y a plus de liquidité. on met à ça en parallèle, souvenez-vous, il y a quelques semaines, un petit mois, la Société Générale, la BNP Paribas, ont dévissé sur les marchés financiers. Des grosses banques françaises. On rajoute à ça le climat financier extrêmement tendu, extrêmement sensible. La grosse banque de la Silicon Valley qui a fait faillite, UBS, pareil en Suisse. On rajoute également à ça que des observateurs du monde économique, Jacques Attali, qu'on ne peut pas non plus qualifier de personne extrêmement profane sur ces questions, a prédit une crise financière, ou du moins a préparé à une crise financière dans le courant de l'été. Donc oui, je pense que moi, cette réforme est plus qu'une victoire à la Pyrrhus, c'est un nouveau pas vers Golgotha. L'expression est peut-être un petit peu violente, mais si demain les marchés financiers décident de se retourner contre la France, c'est la fin des haricots. On n'a aucune liquidité et on va devoir se retrouver à faire comme la Grèce, c'est-à-dire vendre ce qu'on appelle en comptabilité des actifs. Athènes avait vendu le port du Pirée à des investisseurs chinois, plus 30 milliards. Est-ce que demain, pour surmonter une crise, la France est prête à faire deux efforts, soit renflouer les banques comme on avait fait en 2008, sauf que dans le climat actuel, je ne suis pas convaincu qu'on signe, que la population signe pour les 1000 milliards comme en 2008, ou la deuxième option, sommes-nous prêts à vendre des tableaux, des ports, des aéroports, des musées ?
Oui, Benjamin Morel, finalement, l'endettement de la France est une des préoccupations depuis plusieurs années maintenant. Et ce qui est incroyable dans cette décision des agences de notation qui, et d'autres pourraient suivre, c'est que finalement, on a un déficit budgétaire, je crois que c'était encore 150 milliards cette année. Et là, on est sanctionné parce qu'on va faire un effort en travaillant plus. Il y a quelque chose de paradoxal quand même.
Oui et non, parce qu'en réalité, ce qui est sanctionné, ce n'est pas la réforme des retraites. Ce qui est sanctionné, c'est en grande partie les conséquences de la réforme des retraites, c'est-à-dire l'incapacité à gouverner, à réformer. Si vous êtes une agence, hein, je ne suis pas en train de faire leur apologie, parce qu'à mon avis, très clairement, la situation économique et la façon dont on envisage l'économie n'est pas la bonne. Mais qu'importe. Si vous êtes une agence, vous cherchez à voir en quoi un pays est solvable. Et pour qu'il soit solvable, il faut que demain, en effet, il puisse agir. Il puisse notamment faire des réformes, il puisse redresser ses comptes. Là, pendant 4 ans, ce n'est plus le cas. Là, pendant 4 ans, toute réforme que vous allez vouloir faire, eh bien, elle va se retrouver sans majorité, face à un mur à la fois populaire et un mur parlementaire. Donc la France, en cas de choc systémique, la France, en cas de situation nécessitant des réformes structurelles, bien ou mauvaises, mais encore une fois, on parle du point de vue des agences, eh bien, ne peut pas réagir. Donc évidemment, la situation est de leur point de vue inquiétante.
Thomas Scarpellini, situation inquiétante et on revient à ce constat. Finalement, il n'y a quasiment pas de porte de sortie, que ce soit sur le plan politique et sur le plan financier également.
Vous savez, il y a quelques temps, on fêtait mai 68, il y avait un très bon slogan, l'imagination au pouvoir. Emmanuel Macron a peut-être encore en stock une capacité de fédérer, de rassembler les Français. Il peut compter sur des actions endogènes comme exogènes. Après tout, la guerre en Ukraine, si elle persévère, peut permettre une sortie par là-haut, un événement international ou un remaniement peut-être, changer de Premier ministre. La question c'est finalement, Emmanuel Macron a beaucoup de cartes sur la table. Il a tout un tas de leviers. Il peut dissoudre, changer de Premier ministre, faire une réforme constitutionnelle. La question c'est combien de temps il va mettre pour se décider, va-t-il choisir le statu quo et que va-t-il faire ? Ce qui est certain c'est qu'actuellement la politique optée par Emmanuel Macron, il n'y a pas de problème, je marche seul, certes, mais je marche en avant. On tombe dans l'impasse.
Impasse, peut-être oui, pour finir sur une note d'optimisme.
Alors malheureusement, je serai encore plus pessimiste, bon, justement, parce que un remaniement ne permettrait pas de gagner une majorité, parce que les groupes politiques sont déstructurés. La dissolution ne mènerait pas non plus à une majorité. Et la réforme constitutionnelle, il n'y a jamais eu un aussi mauvais moment pour réformer la Constitution. Il faut la majorité dans les deux chambres. Là, eh bien, il n'y a non seulement pas de majorité au Sénat, mais il n'y a pas non plus à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas les 3/5 au Congrès. Donc actuellement, malheureusement, il y a en effet un pouvoir sévèrement empêché. Et encore une fois, depuis 1962, c'est une première.
Merci infiniment à tous les deux, Benjamin Morel, maître de conférence en droit public, et Thomas Scarpellini, juriste.